Le journal présenté par Ezequiel Fernandez.
Bonsoir à tous. L'Europe plus que jamais divisée sur la question de l'accueil des migrants, la France tente de remettre la solidarité à l'ordre du jour. Pas d'escalade entre Londres et Téhéran dans l'affaire du pétrolier retenu par les Iraniens. Le Royaume-Uni répond avec un grand sens de la mesure diplomatique. Correspondance à Londres, signée Antoine Gignot. Une seconde partie de journal dédiée à Jules Verne, de la Terre à la Lune, avec le lancement réussi de la mission lunaire indienne. New Delhi sur le point de figurer parmi les quatre nations en contact direct avec notre satellite. Nous serons en ligne avec Sébastien Farcy. Et puis 20 000 lieues sous les mers pour la découverte de l'épave du sous-marin d'attaque La Minerve, disparu mystérieusement en janvier 68 au large de Toulon. Un vrai miracle pour les familles de militaires disparus, nous dira en fin d'édition Fiona Mogadam. Emmanuel Macron veut relancer la solidarité européenne sur la question des migrants. Selon le président français, 14 pays de l'Union ont donné leur accord d'ores et déjà, de principe, bien sûr, à un mécanisme initié par Paris et Berlin de répartition pour l'accueil des migrants. Avant de s'exprimer devant la presse, Emmanuel Macron a reçu le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés et le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations pour tenter de remettre en marche un moteur européen en panne sur cette question.
La France fait partie des pays qui ont le plus coopéré et apporté, par le biais de l'OFPRA, des missions permettant justement d'aller chercher les réfugiés. La difficulté est que jusqu'alors le mécanisme n'était pas suffisamment stable, pas suffisamment visible, et la charge pour les États de première arrivée pouvait paraître insoutenable. La conclusion de la réunion de ce matin est que, sur le principe, 14 États membres à ce stade ont donné leur accord sur le document franco-allemand. Parmi ces 14, 8 États membres ont, de manière active, acté de leur coopération et donc de leur participation à ces mécanismes stables, ce qui permettra au commissaire, dans un tel cas, d'activer ses demandes et la réponse de 8 États membres pour faire partie de la solidarité qui est nécessaire. Au-delà de cela, ce que je souhaite, c'est que nous puissions avancer de manière efficace pour que l'ensemble des États membres d'abord participent à cet effort. Je le redis, pour ma part, l'Europe n'est pas à la carte lorsqu'il s'agit de la solidarité. On ne peut pas avoir des États qui nous disent « moi je ne veux pas de votre Europe quand il s'agit de partager la charge, mais je la veux bien quand il s'agit de toucher les fonds structurels ». Ça ne durera pas. En tout cas, je ne validerai pas des perspectives financières qui iront dans ce sens.
Emmanuel Macron, en fin d'après-midi. Auparavant, ce matin, les ministres européens de l'Intérieur et des Affaires étrangères s'étaient retrouvés à Paris, toujours sur le même sujet, à l'exception notable de Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur, manière de signifier que Rome, qui a fermé, vous le savez, ses ports aux navires transportant des migrants, garde son quant à soi, en quelque sorte. Emmanuel Macron exprime également la demande expresse et insistante de la France à la Libye pour qu'elle mette fin à l'enfermement des migrants qui subissent des bombardements et des attaques de camps de réfugiés. Et puis il y a ceux qui passent des paroles aux actes. Les ONG SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières ont annoncé aujourd'hui justement que le nouveau navire de secours aux migrants naufragés, l'Ocean Viking, sera opérationnel dès le mois prochain, dès le mois d'août. 43 civils tués aujourd'hui dans des raids aériens sur la région d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme accuse l'aviation russe, mais Moscou dément. Le régime du président syrien Bachar al-Assad et son allié russe mènent depuis fin avril une campagne dans cette province qui échappe encore à son contrôle pour tenter de venir à bout des djihadistes et de factions rebelles. En moins de 3 mois, plus de 650 civils ont été tués dans les bombardements sur Idleb. 330 000 personnes ont fui les violences. Londres ne met pas d'huile sur le feu et apporte une réponse mesurée à l'arraisonnement par l'Iran d'un pétrolier battant pavillon britannique dans le détroit d'Ormuz, à savoir une mission de protection dans les eaux du Golfe avec les Européens pour protéger la liberté de navigation dans ce secteur vital. Londres ne cherche pas la confrontation, a déclaré Jeremy Hunt, le ministre des Affaires étrangères, après s'être entretenu tout à l'heure avec ses homologues français et allemands. Nous retrouvons à Londres Antoine Gignot.
Pas question de nouvelles sanctions vis-à-vis de l'Iran. Le gouvernement britannique veut à tout prix éviter d'aggraver la crise diplomatique et cherche toujours officiellement une solution pour que le Stena Impero et son équipage puissent reprendre la mer. Mais en parallèle, Jeremy Hunt, le ministre des Affaires étrangères, annonce des mesures pour éviter que d'autres cargos soient stoppés par les forces de sécurité iraniennes. En clair, il s'agit d'envoyer plusieurs croiseurs dans la zone pour constituer une flotte capable de servir d'escorte aux pétroliers européens qui traversent le détroit d'Ormuz. Lors de la saisie du Stena Impero, un seul navire militaire se trouvait à proximité. Il est arrivé quelques minutes trop tard. Les gardiens de la Révolution avaient déjà pris le contrôle du bateau. Reste à savoir quels pays européens sont prêts à participer. Reste à savoir surtout si cette mission de protection maritime se fera en coordination avec les États-Unis qui, eux aussi, veulent déployer des bateaux militaires dans le Golfe.
Antoine Gignot à Londres, ce dossier iranien était sans doute l'un des derniers, sinon le dernier géré par Theresa May au 10 Downing Street demain matin. Boris Johnson sera proclamé en effet très probablement chef du Parti conservateur. Mercredi, il se présentera devant la reine Elisabeth II qui lui confiera alors la tâche de former le nouveau gouvernement. En Somalie, l'explosion d'un véhicule piégé a fait ce matin 17 morts, 28 blessés à un point de contrôle sur la route de l'aéroport de Mogadiscio, attentat revendiqué par les Chebab, islamistes radicaux affiliés à Al-Qaïda. Ceux-ci mènent régulièrement des opérations de guérilla. La Somalie, dont la situation humanitaire est catastrophique, de plus soumise en ce moment à l'une de ses pires sécheresses depuis des décennies. Comme l'Union européenne, la France condamne aujourd'hui les démolitions de bâtiments palestiniens par l'armée israélienne au sud-est de Jérusalem, près du mur frontalier entre Israël et la Cisjordanie. Pour le Quai d'Orsay, elles sont contraires au droit international et interviennent pour la première fois dans des zones relevant de la compétence de l'autorité palestinienne au titre des accords d'Oslo. Nous ouvrons la page Jules Verne de ce journal, comme je vous le disais en titre. L'Inde est entrée aujourd'hui potentiellement dans le club très fermé des pays en contact avec le sol lunaire. En tout cas, le décollage de la mission destinée à poser un robot sur notre satellite s'est déroulé sans problème aujourd'hui. Correspondance à New Delhi, signé Sébastien Farcy, et c'est parti tout d'abord pour le compte à rebours.
3, 2, 1, 0.
Le deuxième essai fut donc le bon. Après l'avortement du lancement la semaine dernière, l'énorme fusée de 640 tonnes a finalement percé les nuages du sud de l'Inde, objectif la Lune. C'est la plus lourde charge jamais lancée par l'agence spatiale indienne car elle transporte pour la première fois un véhicule robotisé. Cet engin à 6 roues devrait se poser vers le 6 septembre sur notre satellite et explorer pendant 2 semaines une zone de 500 mètres de long située dans le sud de cet astre, une partie rarement étudiée. Si cet atterrissage délicat se déroule sans accroc, l'Inde deviendra alors le 4e pays, après les États-Unis, la Russie et la Chine, à poser un tel véhicule sur la Lune. Les Indiens ont déjà envoyé une sonde sur le satellite terrien il y a 11 ans, qui avait permis de prouver la présence d'eau. Ce véhicule robotisé, appelé Pragyan, ou Sagesse en sanskrit, devra cette fois réaliser de plus amples prélèvements afin de connaître la composition minérale et biologique de cette partie inexplorée de la Lune.
Sébastien Farcy à New Delhi, l'Inde a consacré 124 millions d'euros à cette mission, montant d'ailleurs très inférieur à ceux des autres grandes agences spatiales pour ce type de programme. De l'espace aux abysses, c'est l'un des grands mystères de l'histoire maritime récente, la disparition du sous-marin La Minerve. C'était le 27 janvier 1968 avec 52 hommes à bord. Et bien 51 ans plus tard, l'épave a été retrouvée, reposant à plus de 2000 mètres de profondeur au large de Toulon. Une découverte rendue possible par la technologie mise en œuvre par un navire américain spécialisé dans ce genre de recherche. Pour les familles des 52 sous-mariniers disparus dans la catastrophe, c'est aujourd'hui bien sûr, Fiona Mogadam, un énorme soulagement.
Cela faisait 51 ans que Christophe Agnus attendait cette nouvelle. Tout comme les autres familles des 52 sous-mariniers, il avait multiplié les actions pour que les recherches de l'épave reprennent. Lui qui n'avait même pas 5 ans lorsque son père, le lieutenant Jean Agnus, chef machine de la Minerve, a disparu.
Depuis, je cherche à savoir pourquoi et surtout où il est. C'est ça la réponse qui est formidable, c'est qu'on sait maintenant où il est. L'incertitude de l'endroit était le pire, quoi. Et là, enfin, on va pouvoir mettre un endroit et faire une cérémonie et peut-être commencer le deuil qui n'a pas été possible depuis 51 ans.
Une question reste toutefois en suspens pour les familles. Pourquoi la Minerve a-t-elle sombré en à peine 4 minutes? Hervé Fauve est le fils d'André Fauve qui était le commandant du sous-marin.
Sur ce plan, il faut être réaliste et on pense qu'il y a peu de chances qu'on ait beaucoup plus d'explications. J'ai vu les photos de l'épave et effectivement, il y a des endroits qui sont assez détériorés et épars sur le sol et il est difficile de savoir qu'est-ce qui a pu se passer.
D'autant plus que la Minerve ne sera pas remontée à la surface. Comme le veut la tradition maritime, les épaves sont considérées comme des sépultures sous-marines. La Minerve et ses 52 marins continueront donc de reposer au fond de la Méditerranée.
Les précisions de Fiona Mogadam et une cérémonie sera célébrée sur les lieux de la disparition, en présence bien sûr des familles, et cela très probablement dans les semaines qui viennent. 59 départements placés en vigilance orange canicule, seuls sont épargnés en ce moment le Nord-Ouest. l'Est, le Nord et le pourtour méditerranéen. Demain, le mercure grimpera jusqu'à 43 degrés dans le Sud-Ouest. Les plus hautes valeurs seront également enregistrées dans les pays de la Loire, le Centre, Poitou-Charentes, les vallées auvergnates, entre 29 et 33 sur les côtes de la Manche et près de la Méditerranée, entre 34 et 38 dans le reste du pays. C'est la fin de cette édition, préparée avec Benjamin Ducy. Bonne soirée au frais, autant que faire se peut en tout cas, à l'écoute de France Culture.